Bonjour Victoria, bienvenue dans Le Débrief. Il est 16h précises en ce mercredi 12 octobre. On a près de 14 degrés au centre-ville actuellement. C'est Alexis Gagnon au micro. Merci de syntoniser le CILS FM 107,9. On ouvre le bal avec Denis Lépine et ses bulletins d'information comme d'habitude. Et je vous retrouve dans 4 minutes avec la météo détaillée. On va surveiller bien sûr pour vous les puissants orages qui sont attendus en fin de soirée à Victoria. Et ce sera suivi du bulletin d'actualité des Nations Unies et d'autres infos, dont les infos provinciales. En interview, vers 16h40, mon collègue Adrien Blanc passera en studio pour nous raconter l'édition 2016 du festival photo Visa pour l'image, auquel il a eu la chance d'assister le mois dernier. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. L'armée canadienne tient cette semaine sa conférence interarmée biannuelle à Ottawa. Le but est de discuter d'une stratégie de génération et de maintien en puissance de la force pour les engagements et activités d'entraînement de l'armée. Les discussions sont menées par le personnel en matière d'opération et de logistique du quartier général de l'armée, et ce jusqu'à vendredi. La conférence réunit des militaires provenant de toutes les divisions et brigades du Canada, ainsi que des membres du personnel d'Ottawa et de Kingston. Le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, David Lametti, poursuit sa tournée dans 3 pays européens. Il doit discuter avec des représentants des Pays-Bas, de l'Italie et de la France d'ici jeudi. Le Canada tente par le fait même de promouvoir l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Le gouvernement canadien a dit vouloir agir de la sorte en discutant avec des parlementaires, des associations professionnelles, des organisations de la société civile et des chefs de gouvernement. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a établi un groupe de travail pour examiner le cadre de réglementation nucléaire du Canada. Et la Commission a fait savoir dans un communiqué que son examen a permis de conclure que le cadre est appliqué à la vaste gamme de situations qui pourraient survenir aux centrales nucléaires, y compris des accidents graves. La Commission propose aussi de changer le règlement sur les installations nucléaires de catégorie 1, le règlement sur les mines et le règlement sur la radioprotection, notamment en harmonisant les normes et les pratiques internationales. La Commission doit recevoir les commentaires des gens à cet égard d'ici le 7 novembre. On rappelle, entente de principe entre Fiat Chrysler et Unifor pour le renouvellement de la convention collective. Les employés des usines canadiennes devront maintenant donner leur aval à cette entente. Le syndicat et l'employeur ont ainsi évité la grève qui aurait pu être déclenchée mardi. Jerry Diaz, président du syndicat, a déclaré que l'accord comprend un engagement en faveur de la construction d'un modèle de véhicule hybride dans les installations de Fiat Chrysler situées à Windsor et des travaux du côté de l'usine de Brampton. David Johnston rencontrera Manuel Valls, premier ministre de la République française, ce soir à Rideau Hall. Le gouverneur général du Canada et le représentant de la République doivent discuter de plusieurs dossiers à compter de 18h15. David Johnston a déclaré que cette rencontre se veut l'occasion de nouer davantage des relations étroites avec la France, et ce à tous les niveaux et dans de nombreux domaines. Sommet de la croissance organisé par le Forum des politiques publiques, l'événement a lieu au Centre Shaw à Ottawa. Selon le gouvernement Trudeau, l'événement se veut une occasion pour souligner l'importance de soutenir et de célébrer le talent partout au pays. Le sommet comporte une série de tables rondes sur la croissance et invite les penseurs et décideurs canadiens et internationaux à proposer des idées qui pourraient aider le Canada à pousser sa croissance au-delà de 2%. Donald Trump a déclaré sur son compte Twitter qu'il pourra maintenant mener la campagne de son choix depuis que Paul Ryan a décidé de cesser de le supporter, tout en soulignant mettre l'emphase maintenant sur la réélection de républicains du Congrès. Trump a également attaqué le sénateur John McCain. Ce dernier a déclaré qu'il ne supporte plus Trump suite à l'enregistrement vulgaire publié par le Washington Post vendredi dernier. Donald Trump a dit que l'ancien candidat présidentiel le laisse tomber pour une histoire qu'il qualifie de propos de vestiaire, tout en rappelant qu'il lui avait donné son appui en 2004. Toujours en politique américaine, eh bien, une figure du passé est réapparue lors d'un discours d'Hillary Clinton en Floride. Al Gore, candidat démocrate à l'élection présidentielle de 2000, est venu prononcer un discours en faveur de l'ancienne secrétaire d'État. Il a vanté le parcours de cette dernière tout en rappelant quelques-unes de ses réalisations. Il a également abordé plusieurs dossiers environnementaux. Au sport, au baseball majeur, série de division dans la Ligue nationale, victoire de Los Angeles 6-3 contre Washington. Le match décisif aura lieu demain en fin d'après-midi à Washington. La série est égale 2-2. Et hier soir, eh bien, victoire de Chicago 6-5 contre les Giants de San Francisco. Les Cubs ont arraché la victoire grâce à 4 points en 9e manche et affronteront en finale de la nationale le gagnant de la série Washington-Los Angeles. Au hockey, eh bien, c'est ce soir que s'ouvre la saison 2016-2017 dans la Ligue nationale de hockey. 4 rencontres sont à l'affiche. Toronto est à Ottawa, Saint-Louis à Chicago, Calgary à Edmonton et San Jose recevra Los Angeles. Et dans la NFL, Carson Palmer pourrait être de retour ce dimanche contre les Jets. Le quart arrière des Cardinals de l'Arizona était inactif le week-end dernier en raison d'une commotion cérébrale.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Vous êtes dans Le Débrief, il est 16h06. Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. On va tout de suite se tourner vers la météo. Le site d'Environnement Canada devant moi, on a actuellement 14 degrés dans le port de Victoria, c'est 12 degrés du côté de l'aéroport et 14 degrés au centre-ville. On a bien sûr une alerte météo en vigueur, je vous en fais part immédiatement. La première d'une série de puissants orages du mois d'octobre approchera de la côte de Colombie-Britannique. Tard ce soir et cette nuit, de la faible pluie commencera à tomber en début de soirée, puis deviendra très forte au cours de la nuit. De nombreuses régions recevront une quantité de pluie de l'ordre de 30 à 50 mm d'eau avant que la pluie ne cesse en matinée, jeudi donc demain. Demain jeudi, le répit sera de courte durée alors que la seconde tempête devrait se déplacer sur la côte jeudi soir. La pluie recommencera à tomber et des vents plus forts sont prévus avec cette seconde tempête. La troisième et potentiellement plus puissante tempête approchera de la côte samedi. Des vents très forts et de la pluie forte sont encore probables. La quantité totale de pluie attribuable à ces tempêtes pourrait dépasser les 200 mm sur les régions de l'ouest et de l'intérieur de l'île de Vancouver. Sur les secteurs de la côte intérieure, la quantité pourrait dépasser les 100 mm de pluie et une accumulation encore plus importante est possible à proximité des montagnes. À mesure que les détails concernant la trajectoire exacte de la tempête deviendront plus précis, des avertissements seront émis pour de nombreuses régions au cours des prochains jours. Donc en fin de soirée, c'est vraiment le début de cette série de 3 tempêtes de pluie. On vous tiendra au courant, bien sûr, dans l'édition de demain, dans le débrief. Pour le moment, les nuages sont là dans le ciel de Victoria. Il n'y a pas de précipitations. Et comme je l'indiquais plus tôt, on a 14 degrés au mercure. On va retourner dans les bulletins d'infos. On écoute immédiatement le bulletin des Nations Unies. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre l'attaque meurtrière contre une école à Dera en Syrie. Au Burundi, le gouvernement suspend sa coopération avec le Bureau des droits de l'homme. Nous ferons aussi le point sur Haïti en termes politiques mais aussi scolaires après le passage de l'ouragan Matthew. Et puis Ibrahim Mayaki, le patron de l'agence de développement de l'Union africaine, est notre invité pour parler de partenariats intelligents. Le drame syrien encore à la une de l'actualité en ce mois d'octobre. La représentante de l'UNICEF dans le pays, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Anna Singer, a déploré ce mercredi l'attaque sanglante perpétrée contre une école dans la ville de Dera, au sud du pays. Une attaque perpétrée donc mardi et qui s'est soldée par plusieurs morts parmi les enfants et qui a fait aussi de nombreux blessés. Une attaque qui en dit long sur le niveau de barbarie atteint dans ce conflit vieux de plus de 5 ans. Florence Westgaard.
Par la voix d'Anna Singer, l'UNICEF déplore l'attaque de mardi contre l'école primaire de Teten Natakain dans la ville de Dera. Attaque qui a tué 5 élèves âgés entre 4 et 16 ans et blessé 15 autres enfants. Le conflit en Syrie a atteint un tel niveau que les enfants risquent maintenant leur vie en allant simplement à l'école, déplore la représentante de l'UNICEF dans une déclaration à la presse. La cour de l'école a été frappée à la fin d'une séance de sport en plein air. Anna Singer dénonce la mort quotidienne d'enfants en Syrie, une tuerie qui doit cesser, insiste-t-elle. L'attaque survient quelques semaines après le début de l'année scolaire et sur fond d'escalade de la violence. L'UNICEF a appelé une nouvelle fois toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations humanitaires et à protéger les enfants et les écoles. Samedi, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur deux projets de résolution pour mettre fin au conflit en Syrie, en particulier à Alep.
L'actualité, c'est aussi le Burundi. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme regrette et se déclare préoccupé par la décision du gouvernement de suspendre toute coopération avec son bureau à Bujumbura, un bureau ouvert depuis plus de 2 décennies. Et ce d'autant plus qu'au cours des dernières années, le bureau a mené des activités extrêmement importantes sur le terrain, comme le précise Cécile Pouy, porte-parole du haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Nous pensons vraiment que avoir une présence du Haut-Commissariat sur place est importante. Un exemple tout à fait concret, sur les 9000 personnes qui ont été arrêtées entre avril 2015 et septembre 2016, plus de 5000 d'entre elles ont été relâchées en grande majorité en raison de nos interventions auprès des autorités burundaises. Donc nous souhaitons que ce dialogue continue. Il est particulièrement important à ce moment critique de l'histoire du Burundi. Il faut que le dialogue sur les droits de l'homme se poursuivent et notre présence sur le terrain est importante à cet égard.
Le Conseil de sécurité a entendu mardi après-midi la représentante spéciale des Nations Unies en Haïti et chef de la MINUSTAH, la mission onusienne. Sandra Honoré qui a expliqué que l'ouragan Matthew, ouragan de force 4 qui a frappé Haïti la semaine dernière, a provoqué la pire crise humanitaire depuis le séisme de 2010. Quelques 2,1 millions de personnes ont été touchées, dont 1,4 million ont besoin d'une aide humanitaire immédiate. Les élections ont dû être aussi de nouveau reportées. L'heure est à l'appui du et la mission, donc la MINUSTAH, est un volet clé. C'est pourquoi il faut proroger son mandat, comme l'explique Sandra Honoré.
L'impact de l'ouragan Matthew sur le processus politique et sur la stabilité dans le pays ne peut servir qu'à confirmer la recommandation du secrétaire général pour une prolongation de 6 mois de la mission au niveau actuel de la force militaire et de police jusqu'au 15 avril 2017. Cela permettra à la MINUSTAH d'appuyer les autorités haïtiennes dans leurs efforts afin de revenir au plein ordre constitutionnel alors que le pays traverse la crise humanitaire créée par l'ouragan. Et j'appelle tous les partenaires internationaux d'Haïti à continuer de prêter leur soutien au pays afin de surmonter rapidement les nouveaux défis occasionnés par l'ouragan et que l'accent puisse être remis sur le renforcement de l'infrastructure économique, physique et institutionnelle du pays.
Et puis, toujours à propos d'Haïti, suite au passage de l'ouragan Matthew, donc au moins 300 écoles publiques ont été partiellement ou entièrement détruites. Conséquence, 100 000 enfants ne pourront pas reprendre les cours. L'UNICEF qui souligne qu'en temps d'urgence, l'éducation constitue un pilier qui ne doit pas être oublié. Aussi, la priorité est de réhabiliter les écoles pour minimiser le temps d'interruption scolaire, tout en contribuant à la réponse d'urgence. On écoute Christophe Boulirac, il est le porte-parole de l'UNICEF.
Nous avions prépositionné des fournitures d'urgence pour 10 000 personnes. Nous avons fourni un réservoir d'eau souple de 10 000 litres à un hôpital d'écailles qui reçoit maintenant partiellement de l'eau. Le réseau a été partiellement réactivé avec l'appui de l'UNICEF et de ses partenaires. Nous avons envoyé 2 camions de 48 000 bouteilles d'eau commerciales qui ont été envoyées au sud et au Caï. C'est une mesure immédiate, évidemment, qui n'est pas durable. Et nous avons expédié divers matériels d'urgence, des seaux, du savon, des comprimés de purification de l'eau. Puis nous faisons le suivi auprès de tous les enfants qui sont dans ces zones très affectés, qui sont soit dans des institutions, soit dans des familles. Vous savez qu'il y a un phénomène d'enfance en domesticité en Haïti qui recouvre une large palette de réalités, qui n'implique pas forcément toujours l'abus des droits et l'exploitation, mais qui le fait certaines fois. Et donc, évidemment, ces enfants dans ces zones particulièrement affectées sont doublement aujourd'hui vulnérables.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et sur la semaine de l'Afrique, une semaine organisée au siège de l'ONU à New York et ce du 10 au 14 octobre sur le thème du renforcement des partenariats en faveur du continent. Et pour nous en parler, Ibrahim Hassan Mayaki, le secrétaire exécutif du NEPAD qui en fait est l'agence de développement de l'Union africaine. Il revient sur le changement d'approche et de nature des partenariats.
Pour nous, l'Union africaine, pour nous, cette question est très importante parce que dans le passé, on jouait un rôle d'acteur passif qui était mu essentiellement par la recherche d'aide. Aujourd'hui, on est dans un rôle qui est beaucoup plus un rôle de partenaire proactif et qui vise à développer ces partenariats, que ce soit avec le Nord ou avec les pays émergents, sur la base de nos intérêts. Et pour qu'on développe ce partenariat sur la base de nos intérêts, il faut qu'on soit très clair sur ce que sont ces intérêts. Et ces intérêts doivent être liés à notre vision du développement qui, à travers la position commune africaine qui a guidé nos négociations dans le processus OCD, était focalisée sur le développement de capacités productives en vue d'enclencher l'industrialisation. Donc, c'est ce qui nous guide dans les partenariats, que ce soit avec la Chine, le Japon, l'Union européenne ou les États-Unis. Nous veillons toujours à ce que ces partenariats-là aillent vers des sujets qui nous préoccupent. Des sujets relatifs à l'énergie, des sujets relatifs au changement climatique, à l'adaptation, des sujets relatifs à la transformation agricole. Donc, c'est ce que l'on entend par partenariat intelligent. C'est un partenariat où on joue un rôle proactif et pas un rôle passif d'attente de l'aide. Et vous savez, l'un des défis les plus importants du continent, ce sera la création d'emplois pour ces 300 millions de jeunes qui sont déjà avec nous et pour lesquels on devra créer des emplois dans les 30 prochaines années. Et pour créer ces emplois, ce ne sont pas les gouvernements qui vont créer les emplois. Ce sont les petites et moyennes entreprises, des entreprises plus grosses. Donc il faudra créer des conditions de développement du secteur privé qui permettent la création de ces emplois. Donc le partenariat là aussi avec le secteur privé africain et le secteur privé extérieur sera extrêmement important. Donc nous voyons plus l'aide comme un facteur catalytique qui va aider à créer les conditions de la transformation que comme un transfert de ressources pour aider dans l'éducation, la nutrition, etc.
Alors est-ce que justement pour le développement de toutes ces capacités, ça passe donc par des infrastructures, ça passe par des stratégies, mais ça passe aussi par un accès au marché. Est-ce que là également donc votre agence développe des plans pour que à travers la CNUSED, à travers vous parliez des Chinois, vous parliez de la TICAD, vous parliez de l'Union européenne ou encore des États-Unis, il y ait un commerce beaucoup plus équilibré qui permet justement à l'Afrique notamment de tirer son épingle du jeu et de transformer les produits, les ressources naturelles et non plus d'avoir également ce type de rapport qu'il y avait avant.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, la stratégie qu'on a par rapport au commerce, elle est en deux volets. Le premier volet, c'est que nous ne pensons pas que l'Afrique ne participera pas au commerce mondial de manière beaucoup plus importante si elle n'arrive pas à augmenter son taux de commerce intra-africain. Et pour augmenter ce taux de commerce intra-africain, il faudra donner une préférence aux marchés régionaux. Compte tenu du fait que nous allons doubler de population d'ici 2050, nous aurons naturellement, avec une croissance, même si elle est lente, mais qui existe, de la classe moyenne, nous aurons un marché. Et ce marché-là devra être la priorité fondamentale des gouvernements africains et des entités économiques régionales africaines. Et en utilisant ces marchés, nous entrerons dans une logique d'apprentissage qui nous permette ensuite de passer à augmenter notre part dans le commerce mondial.
Voilà, et c'est avec Ibrahim Mayaki que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, un journal à retrouver sur l'Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Voilà, c'était les bulletins de l'ONU. Vous êtes dans le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans le Grand Victoria. Il est 16h18. Merci de syntoniser le 107,9. On va passer aux nouvelles provinciales. À présent, on parle tout de suite de santé mentale. Un manifeste pour améliorer les soins de santé. C'est la manchette que j'ai repérée pour vous sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. La division britanno-colombienne de l'Association canadienne pour la santé santé mentale a dévoilé un manifeste visant à améliorer les soins de santé des personnes atteintes de troubles mentaux et de problèmes liés à la dépendance. Le manifeste contient une série de mesures concrètes destinées à améliorer le système de soins en santé mentale qui est sévèrement limité selon la directrice générale de la division provinciale, Bev Guthrie. Je crois que nous, les Britanno-Colombiens, on connaît tous des personnes, des amis ou des collègues qui recherchent de l'aide mais qui doivent attendre longtemps ou bien attendre qu'une crise se produise, a-t-elle déclaré en entrevue il y a quelques jours avec CBC. Le problème, selon Mme Guthrie, ce n'est pas le manque de financement mais plutôt la façon dont les fonds sont dépensés. Elle affirme que les conseillers en orientation dans les écoles manquent parfois de temps pour aider les jeunes atteints de troubles mentaux. Les conseillers en orientation ont une quantité très limitée de temps à accorder aux enfants, aux familles et aux jeunes. Si on commençait par leur donner plus de temps, ce serait une bonne première étape, a affirmé Bev Guthrie dans cet article publié sur le portail de Radio-Canada. Le manifeste de cette association propose 5 principes fondamentaux: mettre l'accent sur la prévention et l'intervention précoce et s'assurer qu'il n'y ait pas de longue liste d'attente pour obtenir de l'aide. Numéro 2, faciliter l'accès au traitement pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Numéro 3, mettre en œuvre une stratégie provinciale sur le logement et renforcer des programmes de rétablissement communautaire pour permettre aux gens de suivre des traitements plus près de chez eux. Numéro 4, améliorer les soins de santé en temps de crise pour réduire le nombre de suicides en Colombie-Britannique. Et finalement, en point 5, nommer un ministre provincial responsable de la santé mentale et des problèmes de dépendance, un ministre qui soit vraiment dévoué à cette cause. Donc voilà, c'est un article qui paraît aujourd'hui sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Je vous parle à présent de mammifères marins et plus particulièrement des orques qui fréquentent notre littoral ici dans le détroit Juan de Fuca et au large de l'île de Vancouver. C'est un article que j'ai retrouvé sur le portail Fréquence Terre. C'est un portail qui s'intéresse en particulier à la cause environnementale. Le titre « Mort d'une orque, la balise satellite est en cause ». La nécropsie pratiquée sur L95, orque mâle d'une vingtaine d'années retrouvée sur la côte ouest du Canada, est incontestable. La balise satellite dont le cétacé a été muni est bien à l'origine de sa mort. En février 2016, non loin des côtes canadiennes dans le nord-ouest du Pacifique, une équipe de scientifiques fédéraux de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, ont tenté de baliser l'orque en question. La météo a compliqué leur mission et il a fallu lancer 2 fléchettes pour parvenir à étiqueter l'animal, donc qu'on appelle L95. Selon la procédure, les fléchettes doivent être désinfectées à l'alcool, puis à l'eau de Javel. Or, celle qui a été plantée à la base de la nageoire dorsale de l'orque n'a pas été traitée avec l'eau de Javel. 2 jours après, L95 a été identifié près de Columbia River. Il semblait en difficulté, mais les scientifiques ne se sont pas alarmés car, en vertu de son âge avancé, 20 ans, et son régime de saumon, le phénomène n'est pas rare. Cependant, ils ont perdu la trace de l'animal et après plusieurs jours, celui-ci a été retrouvé sans vie près de Esperanza Inlet sur la côte ouest de l'île de Vancouver. C'était le 30 mars 2016. Dès lors, il ne reste plus que 82 orques dans cette région. C'est ce que rapporte le portail Fréquence Terre cette semaine. Donc, c'est une nouvelle qui n'est pas vraiment de l'actualité la plus récente. C'est tiré d'un article de Science et Vie. Donc, vous pouvez trouver cet article sur le portail Fréquence Terre. Je poursuis un petit peu la lecture. Stephen Raverty, pathologiste de Colombie-Britannique, a publié le rapport de nécropsie il y a quelques jours, le 5 octobre 2016. Les analyses révèlent une concentration en champignons pathogènes particulièrement élevée près de la nageoire dorsale où la flèche a été plantée. Cela prouve que ces organismes se sont frayés un chemin par l'incision. La balise aurait donc ouvert la voie à une infection fongique qui aurait affaibli l'orque. Les champignons présents à la surface de l'eau ou sur la peau de l'orque sont entrés dans les vaisseaux sanguins de l'animal, puis sont descendus jusqu'à ses poumons. La NOAA reconnaît son erreur. Elle est profondément consternée que l'une de ses balises ait eu quelque chose à voir avec la mort de cet orque. C'est une déclaration qui a été faite il y a quelques jours par la NOAA. Ce type d'étiquetage et d'identification qui permet d'exercer une veille sur les orques a été utilisé 530 fois jusqu'à présent, donc note cet article, sur 19 espèces marines différentes, dont 56 fois sur les orques. Donc c'est un succès la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas. Cependant, ce ne fut pas le cas cette fois-là. On a déploré justement la mort de cet animal, donc de cet orque L95. Voilà, donc vous aurez plus de détails sur Fréquence Terre. C'est un article fascinant, donc sur le suivi qui est effectué par satellite sur la population d'orques qui nage au large de nos côtes. Je reviens dans les médias de la terre ferme, si vous voulez. Je vous mentionne une nouvelle parue dans le journal local, le Times Colonist, qui nous mentionne aujourd'hui que 11 exploitations laitières ont été condamnées cette année en raison de l'usage qu'elles faisaient d'antibiotiques sur leurs troupeaux. Donc, il y a 11 fermiers qui tenaient des fermes laitières qui ont dû payer une amende à la province, aux inspecteurs qui effectuaient la veille des exploitations laitières. Donc, ces amendes s'élèvent à $65,000 au cours de la dernière année. Je vous traduis en substance ce qui se lit dans les premiers paragraphes de cet article paru sur le Times Colonist. Donc, des pénalités, des amendes imposées aux exploitations laitières de la province cela représente donc quand même une c'est sur 500 exploitations fermières à l'échelle de la province. Donc c'est à lire dans le Times Colonist aujourd'hui. Autrement, toujours dans le Times Colonist, on mentionne ce dispensaire de cannabis. Vous savez que les dispensaires de cannabis, les boutiques de vente de cannabis sont tolérées, elles sont en zone grise, elles ne sont pas officiellement légales. On mentionne le cas de cette boutique de Vancouver qui a diffusé par inadvertance du contenu privé, intime, sur ses usagers, donc sur ses patients, si vous voulez, ou plutôt sur ses clients. Alors, ça inclut des certificats de naissance, de l'imagerie médicale, des photos de passeport, des prescriptions et des rapports de biopsie qui ont fuité sur la toile. Ça fait l'objet d'une enquête de la part du commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique. Vous trouverez ça dans le Times Colonist d'aujourd'hui. C'est sur la manchette Vancouver Pot Shop inadvertently released medical data dans les pages du Times Colonist aujourd'hui. On fait une petite pause en musique. Je vous propose d'écouter la formation avec pas de casque. La pièce s'intitule Dervish Tourneur et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour. À tout de suite.
cervelle, je tourne aussi. Lentement, je mouille ma tête.
Avec podcast dans le débrief à 16h31, merci d'être en notre compagnie, Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On va s'intéresser maintenant aux nouvelles du jour. José Bové restera finalement au Canada. Je ne sais pas si vous avez suivi les tribulations de ce député européen qui a tenté de venir au Canada participer à un rendez-vous sur le commerce international. Il a été arrêté à l'aéroport. Je vais vous lire les premiers passages, quelques passages de l'article paru sur le portail de Radio-Canada il y a quelques heures. C'est partout dans les médias. C'est une toute nouvelle qui a connu beaucoup de retentissement. Donc, José Bové restera finalement au Canada. Le gouvernement canadien révoque l'avis d'expulsion qui visait le député européen José Bové depuis son arrivée en sol canadien hier. Donc, José Bové, après avoir été stoppé, pourra finalement venir au Canada. Il était retenu à l'aéroport de Montréal, on le sait. Donc, Ottawa s'est ainsi rendu aux arguments du militant syndical et écologiste qui a qualifié son interdiction de séjour d'inacceptable et scandaleuse. Attendu à Montréal mardi soir pour participer à une assemblée public portant sur l'accord de libre-échange Canada-Europe, le militant écologiste français s'était vu confisquer son passeport par les autorités douanières et devait être expulsé du pays dans les prochaines heures. Mardi, les douaniers canadiens avaient décidé d'expulser José Bové en raison de deux condamnations criminelles pour des actions posées contre McDonald's et Monsanto il y a plusieurs années. En 1999, le militant avait démonté un restaurant McDonald's en construction pour protester contre l'importation de bœuf nourri aux hormones en Europe. Il avait également fauché du maïs génétiquement modifié de la société Monsanto dans un champ cette même année 1999 pour montrer son opposition au recours aux organismes génétiquement modifiés. Cependant, José Bové croit que son opposition à l'accord de libre-échange sur lequel doit se prononcer le Parlement européen dans les prochaines heures constituait la réelle motivation des autorités canadiennes pour l'expulser du pays. Donc ça n'avait rien à voir, selon Bové, avec les ennuis qu'il avait connus avec la justice à la fin des années 90, mais bien à voir avec son opposition farouche à l'accord de libre-échange qui se prépare entre le Canada et l'Europe. Alors aujourd'hui, mercredi, en conférence de presse, José Bové a directement interpellé le premier ministre canadien Justin Trudeau pour dénoncer le sort qui lui était réservé. J'ai envie de poser la question à Justin Trudeau, quelle mouche vous a piqué à lancer le parlementaire de 63 ans en conférence de presse depuis l'hôtel où il a passé la nuit à Montréal? Pourquoi est-ce que vous, qui voulez toujours apparaître comme la personne la plus ouverte du continent nord-américain, vous en arrivez à accepter de telles situations, a-t-il demandé? C'est quand même assez incongru. Moi, je me pose des questions, a continué José Bové. J'ai toujours présenté le Canada comme un pays libre. Le parlementaire européen a menacé le gouvernement canadien d'intenter un recours en vertu du droit canadien contre cette décision, en plus de saisir le Parlement européen de cette affaire. On va avoir un problème, a-t-il dit, un problème de droit si on ne respecte pas le Parlement en face avec qui on négocie, a prévenu José Bové en faisant référence à l'accord de libre-échange que le Canada doit signer la semaine prochaine avec l'Union européenne. On est à quelques semaines de la ratification ou pas de cet accord et le Parlement européen est partie prenante puisque le Parlement européen doit voter cet accord, a-t-il poursuivi. Un de ses membres, qui fait partie de la Commission du commerce international, n'a pas le droit de se rendre dans le pays avec lequel on doit normalement avoir un accord. Si on ne respecte pas ces parlementaires, comment est-ce qu'on fait pour ratifier cet accord, a-t-il demandé. Effectivement, c'est bien observé de la part de José Bové. L'accord économique et commercial global, l'AECG, poursuit cet article de Radio-Canada, donc un accord entre le Canada et l'Union européenne, doit être signé par le gouvernement canadien le 27 octobre à Bruxelles. En entrevue mardi avec la radio de Radio-Canada, avant son arrivée au pays, José Bové avait affirmé que cet accord mettrait en péril le tissu social des populations des deux côtés de l'Atlantique et devait être stoppé. José Bové devait prendre la parole mardi soir au cours d'une assemblée publique portant sur le libre-échange, sur l'accord de libre-échange Canada-Europe, assemblée publique, à laquelle devaient prendre part de nombreux groupes comme la Confédération des syndicats nationaux, le Conseil des Canadiens et le Réseau québécois sur l'intégration continentale. José Bové, rappelons-le, s'est fait connaître dans les années 80 et 90 à titre de chef syndical dans le monde agricole. Il a été élu deux fois au Parlement européen avec des scores importants. Donc on va suivre cette nouvelle. José Bové est encore au Canada pour quelques jours, je crois. Je vous propose maintenant de passer aux pages du journal L'Actualité sur le portail l'actualité.com. On y rapporte la création de 11 nouvelles chaires d'excellence en recherche par Ottawa. Et l'article indique dès l'intitulé que le fédéral désire plus de femmes à la tête de ces chaires d'excellence. Le gouvernement fédéral étend l'engagement du premier ministre Justin Trudeau en faveur de l'égalité des genres à la recherche scientifique. Les universités qui souhaitent postuler pour obtenir l'une de ces 11 chaires de recherche en excellence du Canada, qui ont été annoncées mercredi, devront démontrer qu'ils ont adopté une politique claire en matière d'équité et des stratégies de recrutement qui favorisent une meilleure représentation des femmes. Parmi les 27 chaires d'excellence en recherche au pays, une seule a à sa tête une femme actuellement, indique cet article de la presse canadienne paru aujourd'hui, 12 octobre. On va faire une petite pause musicale encore une fois. On écoute Fred Fortin avec la pièce Oiseau. Et de l'autre côté, si le temps nous le permet, on citera quelques éditoriaux parus dans la presse aujourd'hui.
J'écoutais le chant des oiseaux, je regarde vers le ciel, je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel. attendu au bout du poteau. Et devant moi qui n'a pas d'aile, et t'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de plume, juste un peu de poil. Je pourrais rester là et te fixer pendant des heures. Que tu ne changerais pas d'air. Je voudrais quand même pas que tu penses que je t'ai pas vu venir. Même minable, je suis orgueilleux. Et ton charme me dit non, et quelque chose dans le temps qui le fait mentir. Tu n'as pas fait tout le monde.
Fred Fortin avec l'excellente pièce Oiseau dans le débrief. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 13 octobre, bienvenue dans l'émission. Merci d'être avec nous. On va passer à la revue de presse des éditoriaux. Le chrono de l'émission nous empêche de tout mentionner. On va surtout focaliser sur ce papier signé par François Cardinal dans le journal La Presse. Ça concerne la ratification de l'accord de Paris. Et François Cardinal a donné le titre « Le désaccord de Paris » à son papier. C'est dans les pages éditoriales du journal La Presse, je vous le rappelle, sous la plume de François Cardinal. Je vous lis quelques passages de cet édito. On va aller à l'interview dans quelques instants. « La ratification de l'accord de Paris a révélé le désaccord de la Fédération ici même au Canada, un désaccord qui prend la forme d'une vive opposition à la taxe carbone nationale. À écouter les protestations du Parti conservateur, écrit François Cardinal, à lire les chroniqueurs de l'Ouest, à entendre les menaces de contestation juridique formulées hier par la Saskatchewan, on croirait que Justin Trudeau a sorti cette idée farfelue de son chapeau dans le seul but d'embêter les provinces pétrolières et de les pousser à la faillite. Pourtant, écrit François Cardinal, il faut se rappeler que l'idée d'imposer un prix sur les émissions polluantes d'un océan à l'autre était non seulement dans la plateforme libérale, mais qu'elle était aussi au cœur des recommandations faites au gouvernement il y a de cela, tenez-vous bien, 10 ans, juste pour jour pour jour. En effet, à l'automne 2006, écrit François Cardinal, donc en 2006, la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, une importante organisation qui avait pour mandat de conseiller le gouvernement, avait détaillé un plan de lutte climatique à l'horizon 2050, un plan dont la clé de voûte était un prix sur les émissions polluantes. C'était dans 2006, soulignons-le. Il est maintenant temps de jeter les bases d'une politique unifiée de prix pour le carbone au Canada, écrivait-on à l'époque. Donc, un rappel qui est fort pertinent de la part de François Cardinal dans les pages de la presse. Donc, ceux qui s'étonnent de voir apparaître cette taxe carbone auraient mieux fait de suivre un petit peu les positions du Parti libéral au cours des 10 dernières années. C'était déjà dans le programme du parti il y a 10 ans, suite aux recommandations qui avaient été formulées par la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie. Et d'ailleurs, cette table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, elle n'avait pas fait long feu. Stephen Harper s'était empressé de la dissoudre, de la faire disparaître. Fraîchement élu, donc en 2006, ils avaient tout fait pour enterrer ce rapport qui recommandait une taxe carbone. Et ils avaient aboli l'organisation, donc la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, une organisation qui avait eu le culot de proposer une taxe carbone. Alors c'était inconcevable pour les conservateurs à cette époque. Donc voilà, c'est la table ronde sur nationale sur l'environnement et l'économie qui a eu le dernier mot finalement 10 ans plus tard. Alors François Cardinal, à juste titre, dans le journal La Presse aujourd'hui, rappelle que la taxe carbone est un sujet dont on parle depuis longtemps, et ceux qui s'étonnent et font les scandaliser, si vous voulez, et qui poussent des cris d'effraie ont tort, et c'est très bien argumenté donc dans ce texte de François Cardinal. On va aller à l'interview dans quelques minutes, dans quelques instants plutôt. Je vous le disais en ouverture d'émission, on a la chance de s'entretenir avec Adrien Blanc. Aujourd'hui, c'est un collègue. Il était en studio un petit peu plus tôt cet après-midi pour nous raconter l'édition 2016 du Festival de photos Visa pour l'image. Restez à l'écoute, c'est dans quelques instants à l'antenne de CILS FM. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria, votre rendez-vous en info en fin de journée du lundi au jeudi. C'est la fin de l'émission, on va achever, mais non sans avoir passé par le créneau de l'interview. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon collègue Adrien Blanc qui me rejoint pour parler d'un festival auquel il a participé récemment. Bonjour Adrien.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Alors Adrien, juste avant de te joindre à CILS, il y a quelques semaines, fin août, début septembre, tu étais encore en France, tu étais du côté de Perpignan, non loin de la frontière espagnole, et tu as eu la chance, vraiment, la grande chance d'assister à un festival, de parcourir un festival qui s'appelle Visa pour l'image.
Oui, c'est le Festival international du photojournalisme. Donc c'est là qu'on retrouve les plus grands photoreporters de l'année, enfin des différentes années, mais qui ont marqué l'actualité pendant l'année. Et ils exposent leurs photographies, il y a des conférences, il y a des rencontres. On peut leur parler, on peut échanger avec eux, ils nous racontent leur expérience. Et puis on peut voir leurs expositions. Et à la fin de ces deux semaines, il y a la remise de prix avec les fameux Visa d'or, qui en général sortent dans l'actualité francophone, qui permettent de mettre à l'honneur ces photographes dont on voit souvent les photos dans l'actualité, mais dont on ne connaît pas les noms.
Quels ont été les temps forts cette année? Qu'est-ce qui a vraiment sorti du lot?
Ben en fait, c'est la crise des migrants en Europe qui a vraiment marqué la photographie, le photojournalisme. D'ailleurs, le Visa d'or a été remis à quelqu'un qui a fait son exposition sur les migrants. C'est Haris Messinis, c'est un Grec qui travaille pour l'agence France Presse.
Oui.
Et donc, il y avait plusieurs expositions qui étaient dans ce cadre-là. Un sur les femmes migrantes, par exemple. Donc, on pouvait voir les différents regards des photographes. Et c'est assez drôle de voir qu'en fait, ils ont un peu tous le même regard sur ces migrants qui arrivent sur les plages du sud de l'Europe. C'est-à-dire, ils prennent des photos vraiment en plan très serré sur des visages de peur, de tristesse, mais aussi des grandes joies. On voit des hommes qui embrassent le sable parce qu'ils ont survécu à la traversée sans savoir ce qui les attend. Et puis, on voit ces enfants qui sont dans les bras de leurs parents, des familles qui se retrouvent, d'autres qui se déchirent parce qu'ils ont du mal à se retrouver. Donc ça, c'était le temps marquant de ce festival.
Est-ce que, et là c'est une question immémoriale en photo journalisme, j'imagine, est-ce qu'il n'y a pas un danger d'esthétiser le malheur, parfois de le rendre beau finalement, et d'oublier un petit peu oublier un peu sous la forme le véritable drame qui est là, qui est humain?
Ben, ce que j'aime beaucoup dans le festival Visa pour l'image, c'est que les photos sont belles, mais elles sont belles techniquement en fait. C'est-à-dire que sans être un grand connaisseur de la photographie, on voit que les couleurs ont été travaillées, la lumière a été pensée, le cadrage, la composition, etc. On voit toute la technique de ces photographes qui se doivent souvent prendre des photos en se déplaçant, en courant, en se cachant quand c'est la guerre, devant une population, quand c'est le cas des migrants, qui est affolée, qui bouge dans tous les sens avec de l'eau. Et pourtant, ils arrivent à faire des superbes photos sans avoir eu besoin de beaucoup réfléchir ou de faire des réglages très compliqués avant. Donc c'est ça qui est admirable, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a un côté esthétique dans les paysages, par exemple, où il y a une exposition qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle le Copacabana Palace. C'est au Brésil, qui représente des gens qui ont investi un bâtiment abandonné, désaffecté, parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où habiter.
Oui.
Et là, on voit que malgré le fait que ce bâtiment est moche comme tout, avec une population très pauvre qui essaie d'y survivre, il y a une certaine beauté dans le fait dont c'est photographié, le jeu avec l'architecture. Voilà, ça ne nuit pas au message, au contraire, ça porte le message.
D'accord. Et pour parler des migrants, justement, on parlait dans le débrief hier, les auditeurs s'en souviendront sans doute, de ce jeune Syrien qui avait échoué sur les plages de Turquie. Sa photo a fait le tour du monde, le jeune Ilan, dont la tante habite maintenant ici en Colombie-Britannique. Sa tante a lancé une fondation en son hommage, en son souvenir. Voilà, donc cette actualité nous habite, elle est partout. Elle était bien sûr à Visa pour l'image. Est-ce qu'il y a eu des conférences de photographes qui revenaient justement sur ces thématiques-là?
Alors, oui, il y avait une conférence à laquelle je n'ai pas assisté sur les femmes migrantes. Donc je pourrais pas trop vous en parler. Je sais qu'après il y avait des rencontres avec les photographes, mais là j'ai pas pu y assister non plus parce que j'étais que pour deux jours.
Oui.
Mais sinon j'ai assisté à d'autres conférences. Celle qui a vraiment eu un très grand succès, c'est la conférence sur l'État islamique. C'était le 2 septembre, un vendredi. Et donc là la salle était peine à craquer. Donc c'était le Palais des Congrès de Perpignan. Et la salle était en état de siège.
Oui.
Il y avait la police, l'armée, un peu tout ce que la France compte de services de sécurité était représenté. C'était pas trop lourd quand même, on pouvait accéder aux locaux, mais on sentait la tension quand même autour de cet événement, parler de l'État islamique. J'ai quand même pu accéder à la salle et c'était vraiment extrêmement intéressant. Il y avait des fins connaisseurs, la plupart journalistes, grands reporters. et on voit qu'ils vraiment, comment ils connaissent leur sujet, quoi. Ils sont pas juste là pour prendre des photos, ils ont bien étudié leur sujet avant.
Oui.
Avec les différents conflits ethniques, les conflits frontières, ils remontaient jusqu'à l'histoire au Moyen-Âge, enfin, même plus à l'Antiquité, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on avait une perspective sur ce que c'est que l'État islamique et surtout les jeux géopolitiques dans cette région du Moyen-Orient. Il y avait une autre conférence à laquelle j'ai assisté,
oui.
Qui aurait pu être intéressante, mais malheureusement, elle m'a un peu déçu. C'était le 1er septembre, donc en semaine, un jeudi. C'était la conférence sur la loi création. C'est une loi française qui oblige Google à rémunérer les photographes dont les photos sont publiées sur Google Images.
Ah.
Et donc c'était une conférence tenue par la SAIF, qui est une société de photographes, et la SAIF en fait se félicitait du passage de cette loi, pour lequel elle a fait beaucoup pression. Mais du coup c'était un peu une discussion d'experts, chacun se congratulait, bravo, ouais. On a enfin réussi. Mais pour moi qui n'y connais pas grand chose, du coup j'étais perdu. Déjà je connaissais pas trop le détail de cette loi création. Ils ne l'ont pas expliqué. Puis ensuite, ils disaient combien elle était super, mais on ne sait pas si cette loi va vraiment pouvoir être appliquée.
Voilà. Donc, est-ce que le géant Google va se plier à cette contrainte?
Alors, a priori, il va s'y plier, mais qui va vraiment en bénéficier? Comment ça va être appliqué? Parce qu'il va y avoir des questions de gestion derrière. Et c'est un peu un reproche que je ferai au festival Visa pour l'image, c'est que c'est souvent un festival des photographes professionnels pour les photographes professionnels.
Ouais.
C'est son but premier. Il est ouvert au public, mais c'est le but de professionnels s'adressant aux professionnels. Mais du coup, souvent, le grand public qui n'y connaît pas forcément grand-chose est perdu.
D'accord, il y a un peu d'entre-soi là.
Oui, beaucoup. En semaine, en fait. Quand c'est le week-end, là où il y a extrêmement de monde, où on a du mal à voir les photos, c'est plus adapté au public. Mais en semaine, si on veut écouter les débats d'experts, là, on est un peu en dehors du jeu, quoi.
D'accord. Autrement, autres impressions, autres rencontres peut-être, œuvres qui ont vraiment créé la surprise, l'étonnement.
Alors, moi, ce que j'aime toujours au festival Visa pour l'image, c'est qu'en dehors des sujets d'actualité, on explore aussi des sujets méconnus qui sont parus dans la presse souvent, mais auxquels les gens n'ont pas fait attention parce que ce n'est pas dans les grands médias. Et là, il y a vraiment toujours des expositions extrêmement touchantes. Généralement, chaque festival, il y a une exposition sur la maladie mentale.
Oui.
Sur l'isolement. Et là, cette fois, c'était l'exposition de Anastasia Rudenko sur la maladie mentale en Russie. Elle a reçu le prix Canon de la femme photojournaliste pour cela. Et on voit comment est gérée la maladie mentale en Russie avec ces familles qui vivent dans des foyers, dans un grand dénuement. Donc on voit à la fois le manque de confort, la vie sans véritable perspective. Et en même temps, toute l'humanité qu'il y a, parce qu'on voit des sourires, on voit de l'affection, on voit les relations avec les habitants de la ville d'à côté, on voit quand même qu'il y a de l'humanité, quoi. Et donc, c'est toute l'ambiguïté de la relation humaine qui est représentée dans ces photos et qu'on soupçonnerait pas forcément. Ce qu'on reproche souvent à Visa pour l'image, et c'est vrai que ça m'a marqué encore cette année, c'est que on montre le malheur souvent de l'humanité.
Mmh.
C'est-à-dire que moi j'ai passé que 2 jours, mais au bout de 2 jours je saturais, quoi, j'en pouvais plus de voir un peu tous les problèmes du monde en même temps, que ça soit au Soudan du Sud avec un conflit qui n'en finit pas, voilà, en Palestine, ce sont des thèmes qui reviennent chaque année et c'est assez lourd. Et donc ce que j'ai aimé par contre, c'est qu'il y a quelques expositions.
D'autant plus que tu revenais d'une année de coopération internationale.
En Centrafrique. Donc, par exemple, l'exposition sur le Soudan du Sud ou sur le braconnage de l'ivoire, je me souviens aussi, les enfants soldats en Colombie, c'était une magnifique exposition sur les enfants soldats, mais ça m'a rappelé les enfants soldats en Centrafrique aussi.
Oui.
Donc, c'est un peu lourd sur le cœur, quoi.
C'est nécessaire, mais peut-être aurais-tu aimé un volet plus optimiste.
Voilà, c'est ça.
Galvauder le.
Ouais, alors il y a toujours une recherche d'optimisme dans les expositions parce que je pense que les photographes sont sensibles à ça, à ce besoin de montrer des solutions au public. Mais quand même, le sujet principal, c'est le problème, quoi, à chaque fois. Mais il y avait, par exemple, une exposition que j'ai beaucoup aimée sur les techniciens du spectacle. Donc, le photographe est monté avec les techniciens, vous savez, tout en haut, là, en haut de la salle, sur les passerelles, etc. Et on voit les techniciens en train de travailler au milieu de ces fils, de ces câbles, de ces poteaux métalliques. C'est très beau à voir et ça nous permet de mieux comprendre leur travail.
Oui, avec les fils, les structures, les diagonales, ça crée...
Il y a un jeu pour la photo, oui.
Ouais, voilà, vraiment...
Et puis les jeux de lumière aussi, parce que l'exposition s'appelle « Les hommes de l'ombre ». Donc il faut les montrer un peu dans la lumière et en même temps on voit qu'ils sont dans l'ombre. Ça, c'était vraiment intéressant à observer, quoi.
Bien vu, bien vu. Alors, on doit se contenter de l'imaginer, mais c'était très éloquent. Merci beaucoup, Adrien Blanc, pour ce petit compte-rendu de Visa pour l'image 2016 à Perpignan.
Merci.
Merci Adrien. Donc c'est tout pour le débrief. Merci d'avoir été avec nous. Adrien Blanc, qui est bien sûr journaliste et animateur de l'émission Rendez-vous à l'antenne de CILS. C'est une émission hebdomadaire d'actualité du Grand Victoria. C'est en français et en anglais, diffusée sur CILS 107,9 et CFUV 101,9. Je vous rappelle, en terminant, l'alerte météo qui est en vigueur actuellement. La première d'une série de puissantes tempêtes d'octobre atteindra la côte de la Colombie-Britannique ce soir et cette nuit. De la faible pluie commencera à tomber en début de soirée, puis deviendra assez forte au courant de la nuit. De nombreuses régions se recevront une quantité de pluie de l'ordre de 30 à 50 mm de pluie. La pluie cessera demain, jeudi, en matinée. Donc c'est la première d'une série de trois vagues de précipitations importantes et fortes. Donc série qui se poursuivra jusque dans la journée de samedi. Voilà, excellente soirée à tous. À demain.
Thank you.